Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons fêter un anniversaire, c'est les 40 ans du décès d'une des personnes les plus connues en Israël. Il a été le héros, notamment de la guerre des 6 jours et pas seulement. On va parler de Moshe Dayan, qui nous a quittés pratiquement jour pour jour il y a donc 40 ans. Et les éditions Perrin ont eu la bonne idée de sortir une biographie sur Moshe Dayan, faite par Georges Ayache, qui est notre invité. Bonjour Georges Ayache.
Bonjour.
Alors, Moshe Dayan, ça a été une commande ou vous avez été, vous, séduit par le personnage?
Le personnage m'a toujours intéressé, mais l'honnêteté m'oblige à dire que c'est une commande, parce que l'éditeur m'avait laissé le choix entre Ben Gurion et Moshe Dayan. Ben Gurion ayant été étudié sous toutes les coutures et de fort belle manière, notamment par Bar Zohar, que j'ai opté pour Moshe Dayan, qui a fait l'objet de très peu de biographies, même en langue anglaise, et aucune en langue française, sinon une traduction.
Alors, ce qui est très, très intéressant dans le personnage de Moshe Dayan, c'est toutes ses parts d'ombre, toute, je dirais, son ambivalence. Ça a été compliqué de trouver des éléments pour faire sa biographie aussi précise que vous la faites?
Non, pas vraiment, parce qu'on a des matériaux, si vous voulez, à disposition. Et bien entendu, j'ai fait quelques séjours en Israël pour aller sur le terrain, si j'ose dire, essayer d'avoir des éléments vécus. Hein. Mais on dispose également de mémoires de la veuve de Moshe Dayan, Ruth, enfin sa première femme en tout cas, qui d'ailleurs n'est décédée que cette année, hein, à l'âge de 103 ans. Et de sa fille Yael, qui a laissé également des livres fort intéressants. Donc en recoupant tous ces éléments, j'ai pu reconstituer ce profil qui, comme vous le disiez à l'instant, fort justement, est ambivalent. Il y a beaucoup de parts d'ombre, mais il ne cesse d'être passionnant à celui qui l'étudie.
Alors, on va parler un peu de ce Moshe Dayan. Il y a plusieurs parties dans le livre, hein. C'est assez chronologique dans l'histoire que vous racontez. Et finalement, ça je savais, mais là vous l'avez mis le point vraiment dessus. Je dirais l'enfance compliquée de Moshe Dayan et de l'activisme invétéré de son papa.
Oui, il a été marqué négativement, j'entends, par son père et positivement par sa mère. Sa mère qui est un exemple de courage et de d'héroïsme même vis-à-vis de sa famille, elle s'est sacrifiée une grande partie de sa vie. Son père, lui, c'était un peu le contraire, c'est-à-dire que il se prenait pour un homme politique, moyennant quoi il est devenu un apparatchik de l'establishment sioniste, hein, de l'Istadrout, du Parti Travailliste, etc. Et il ne s'est jamais occupé de sa famille, quand sa famille avait besoin de lui en tout cas. Donc Moshe Dayan va en ressentir une rancœur très très vive, et même un rejet de son père, hein, carrément. Et en tout cas, ça dictera son attitude dans la vie. Non pas dans le sens où son père, s'étant éloigné de la famille, lui, va constituer une famille soudée, mais dans le sens où, puisqu'on l'a laissé, on lui a pas donné le choix dans son enfance, eh bien lui, maintenant, va dicter sa vie en faisant ce qui lui plaît.
Alors, on va juste faire une petite parenthèse concernant la famille de Moshe Dayan, qui n'est pas du tout religieuse. Elle ne fait pas les fêtes, elle est très loin de la religion. C'est dû aux ancêtres ou c'est une décision du père de Moshe Dayan?
Non, c'est une décision de... Non, pas du père de Moshe Dayan spécialement, mais c'est le fruit de son indépendance à lui. Il ne veut pas avoir d'attache, il ne veut pas avoir de gens ou de structures ou de principes qui lui dictent son existence. Mm-hmm. Donc il va s'en abstraire, s'en affranchir. Il y a deux exemples qui le montrent bien. Sa fille, Yael, indique, en parlant de la guerre de Kippour, en disant que pour Kippour, ils ne font jamais rien, quasiment. C'est plutôt un ennui pour eux qu'une cérémonie marquante. Elle n'a pas de sentiment religieux à proprement parler. Elle a le respect, bien évidemment, de tous les principes des anciens, mais elle ne veut pas non plus rentrer dans ce schéma-là. Autre exemple, au lendemain de la guerre des Six Jours, alors que Moshe Dayan lui-même avait été laissé se recueillir au mur occidental, ce qu'on appelle le mur des lamentations, eh bien, un jour, il voit un groupe de rabbins se dirigeant vers le mur et s'exclame, qu'est-ce que c'est le Vatican? Donc, vous voyez, ce genre de choses, de réflexion, montre bien que c'est un sioniste très attaché à la terre, très attaché à ses racines, très attaché à la Bible, mais il la déconnecte des principes strictement religieux.
Alors, Jean-Jacques, dans votre livre, il y a un mot qui revient très souvent, c'est solitaire. Moshe Dayan était un vrai solitaire. C'est dû à l'éducation de son père, ou alors c'est vraiment un trait de caractère qu'il a, on va dire, tout au long des années, travaillé?
Non, il n'a pas travaillé, c'est naturel. C'est naturel, son père est en partie, il n'a quasiment pas de père. Sa mère, elle aussi, va travailler pour sa famille, mais va trouver une activité qui est conforme à ses aptitudes intellectuelles. Elle va écrire dans des journaux, elle va s'impliquer dans la vie associative, ce qui fait qu'il est livré à lui-même. Et étant livré à lui-même, il se replie sur lui-même, sur sa personnalité qui est déjà très forte, et il devient solitaire. Et toute sa vie, il se comportera en solitaire, un solitaire qui se moque même du candidaton. Il n'en fait qu'à sa guise. Il se dit, puisqu'on m'impose ce genre de vie, eh bien, je l'amènerai maintenant selon mes critères.
Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est une personne solitaire qui n'aime pas trop l'autorité. Et pourtant, il excelle dans l'arme, dans l'art de défendre ses yishuvs. Il y a vraiment une différence? Est-ce que Moshe Dayan aurait pu faire autre chose que l'armée?
Oh, avec le recul, c'est très difficile de l'imaginer autrement. Ouais. Bon, il serait devenu paysan, probablement. Ouais. Il serait devenu fermier, bon gré, mal gré, et ne sachant pas s'il n'y avait pas eu de guerre, ni tout ce qui s'est passé, ne sachant pas à côté de quoi il passait, eh bien, il s'y serait fait. Je ne dis pas qu'il aurait vécu une vie heureuse, mais il s'y serait fait. Tandis que là, si vous voulez, les circonstances ont donné un sens à sa vie, et dès lors, c'est devenu naturel qu'il reste dans l'armée, malgré le handicap physique.
Justement, Jean Jaïas, voilà. On fantasme beaucoup sur ce banc d'or. Moshe Dayan a perdu son œil sur une opération qui n'a pas très bien tourné. Il a eu tout simplement une balle dans l'œil. Il n'y a pas de dramaturgie spéciale.
Oui, mais là, si vous voulez, pour lui, c'était un drame absolu. Parce qu'il envisageait déjà une carrière dans l'armée, où il commençait à se distinguer. Il était un chef qui commençait à être apprécié. Oui. Et pour lui, cet élan était complètement brisé. Parce qu'à partir de là, il estimait qu'il ne serait plus bon à rien, que personne n'aurait besoin de lui, et surtout pas comme chef militaire, avec un seul œil.
Alors, donc, pourtant, il arrive à graver les élections militaires. Il se fait très ami avec Ben Gurion, le président de l'État, qui l'a soutenu tout au long de sa carrière militaire et même au-delà. L'avant 56, l'avant crise de Suez, Moshe Dayan était peu connu. Comment il a monté comme ça ces échelons? Comment il a pu arriver jusqu'au grade suprême?
Alors, il est monté, comme vous le disiez justement à l'instant, grâce à l'aide et au soutien de Ben Gurion, qui lui met le pied à l'étrier, qui lui donne un commandement important durant la guerre de 48, la guerre d'indépendance, qui lui donnera un second commandement décisif, c'est-à-dire la responsabilité de Jérusalem. On sait ce que ça représente aux yeux des juifs et des sionistes, c'est quelque chose de crucial. Donc à partir de là, son ascension va se préciser, d'autant plus que dans son rôle de défenseur de Jérusalem, il y a le côté militaire, mais il y a aussi le côté diplomatique. Et là, il se révèle être également un homme extrêmement compétent, volontaire, imaginatif, ce qui ne lui causera pas que des amis, non seulement dans le corps diplomatique, mais également chez les militaires. Alors, il n'appartient à aucune coterie, aucune famille bien précise, et donc il sera rejeté pratiquement par tous ses collègues.
Alors, on va pas revenir en détail sur la guerre de Suez et des six jours. On va simplement dire que au bout d'un moment, Dayan est devenu un héros, une pop star, et il s'en a accommodé plutôt.
Ah, absolument, c'est le mot qui convient. 56 en fait un héros absolu, puisque, encore une fois, la guerre de 48 avait été ric-rac en quelque sorte. Israël jouait sa survie, a réussi à survivre, donc c'était une victoire, mais sur le plan militaire, c'était plus que limite. 56, on ne savait pas quel était le rapport de force. On savait qu'Israël était entouré de pays ennemis. On savait que ces pays ennemis s'armaient à outrance. Mais on ne savait pas ce que ça pouvait donner. Bon, Moshe Dayan en a fait la démonstration en 8 jours. Il a investi toute la péninsule de Suez et du Sinaï et l'affaire était réglée. À partir de là, il est devenu un héros incontesté d'Israël. Et ce côté héroïque, si vous voulez, sera démultiplié 11 ans plus tard avec la guerre des 6 jours.
Oui, excusez-moi, allez-y.
Je vous en prie. Le paradoxe de cette guerre des 6 jours, c'est qu'il ne l'a pas gagné militairement, puisque toutes les opérations avaient été préparées par l'état-major, et le chef d'état-major à l'époque était Yitzhak Rabin. Donc c'est lui qui porte le mérite, avec le chef de l'armée de l'air, d'avoir monté cette opération qui combinait les chars et l'aviation. Mais il faut savoir qu'à la veille de la guerre des 6 jours, Israël, sur le plan politique, traversait une grave crise de leadership. Les Vieshkol étaient très contestés, le moral était complètement en berne du côté de la société israélienne, et tout le monde réclamait un homme qui soit susceptible de les galvaniser. Et cet homme a été Moshe Dayan. Et avec une pression populaire, bon, plus ou moins instrumentalisée, mais avec un côté spontané quand même, Moshe Dayan est parvenu à revenir au gouvernement plutôt comme ministre de la Défense. Et c'est lui qui psychologiquement va redonner le moral à cette armée. Donc une partie de la victoire, effectivement, lui est redevable. נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני חייבשו בונות המים, כי קר השוק ריקה, ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כנשיקה צרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור
Moshe Dayan, Georges Ayache, biographie aux éditions Perrin. Alors, il y a une histoire, Moshe Dayan, qu'on connaît, c'est l'homme politique. Et vous dites dans le livre d'hier qu'il a deux, on va dire deux passions, c'est l'archéologie et les femmes. L'archéologie qui est l'adorée et les femmes aussi. Moshe Dayan, un homme à femme, c'est un peu difficile à comprendre.
Eh ben oui, mais c'est pourtant la réalité. Une réalité bon, qui a été souvent occultée, qui a été souvent calculée avec l'indulgence de la presse et de la société israélienne, qui n'était pas dupe. On savait très bien que qu'il courait les femmes de manière même échevelée. Ça a provoqué ici ou là des scandales. Mais on lui pardonnait, parce qu'effectivement, un héros se situe bien au-delà de ses contingences. Donc ça, c'est pour les femmes. Il divorcera d'ailleurs, hein, parce que finalement... Sa femme légitime trouvera la situation trop difficile à assumer et s'en séparera et il n'en aura aucun regret d'ailleurs. Hein. Il dirait de toute façon je ne changerai pas, je serai toujours comme ça et ce sera comme ça, c'est à prendre ou à laisser.
Alors donc, on va un peu faire un bond vers le temps et arriver en 1973, cette guerre de Kippour où aucun généraux israélien n'a pensé que les Égyptiens, les Jordaniens, les Syriens allaient attaquer. Pourtant, ça s'est passé. Et là, Moshe Dayan est là aussi rappelé en sauveur.
Oui, mais alors, ça se joue à franc renversé par rapport à 1967. En 1967, il était responsable de pas grand-chose sur le plan militaire, mais il devient le symbole de la victoire. En 1973, il n'est pas du tout responsable non plus de tous les préparatifs militaires et de toutes les insuffisances.
Il est ministre de la Défense à l'époque.
Voilà. Mais malgré ça, ce n'est pas lui qui fait les plans militaires, ce n'est pas lui qui est le responsable du renseignement, forcément. Et c'est lui qui, pourtant, sera l'un des principaux à assumer la défaite et à encourir le discrédit au sein de la société israélienne, souvent agressif, souvent violent, hein, envers ceux qui étaient supposés avoir presque causé la perte d'Israël. Et donc tout son capital de sympathie et de popularité va s'effondrer en très peu de temps et il deviendra un homme littéralement détesté au sein de la société israélienne. On le rend responsable de l'échec, de la non-victoire de 73, qui équivaut à une défaite.
Oui, mais apparemment vous dites qu'il a été quand même touché, malgré sa platitude, il a été touché de ses parents éplorés qui venaient de lui dire « Vous avez tué mon fils ».
On ne peut pas rester insensible. Ouais. Même un chef ayant le caractère le plus trempé ne peut pas rester insensible face à la détresse de gens qui, après la guerre, déplorent la perte de leur proche. Ça va le toucher profondément. Ça va le miner. Il ne sera plus jamais comme avant. Hein. Ouais. C'est son train, ça marque pour lui le commencement de la fin. Mmh. Très, très certainement.
Alors, c'est Moshe Dayan. Et le sous-titre de votre livre, c'est « Héros de guerre et politiciens maudits ». Pourquoi politicien maudit ? Qu'est-ce qu'il a maudit exactement ?
Parce que il est arrivé ministre de la Défense, certes, il était le protégé de Ben-Gourion, il a été une personnalité politique de premier plan. Pour autant, il n'a pas du tout fait la carrière qui lui était promise parce que dans l'esprit de beaucoup, il devait devenir premier ministre d'Israël. Il n'a pas su saisir le coche alors que d'autres chefs d'état-major comme Rabin, comme Ehud Barak, comme surtout Sharon, deviendront eux premiers ministres. D'accord. Et auront une carrière politique à la hauteur de ce qu'avait été leur carrière militaire. Donc c'est pour ça que c'est un échec chez Dayan.
Pourtant, il a été chef des négociations avec l'Égypte. C'est lui qui a négocié.
Oui, c'est une victoire pour lui. Il a joué un rôle important. Il a joué un rôle très important, en effet, à ce niveau-là. Mais on savait très bien qu'il était sous la coupe de Begin, qui était premier ministre à l'époque. C'est lui qui dirigeait les choses. C'est lui qui n'aurait pas accepté si Moshe Dayan avait été sur une perspective qu'il n'aurait pas acceptée. Donc, il n'était que ministre de la Défense, quand même. Hein. Ministre des Affaires étrangères à cette époque. Mais c'est pour ça qu'il n'a jamais tenu le rôle de numéro un.
Il ne le voulait pas. On dit qu'il était souvent en opposition avec Golda Meir, par exemple, qui a été premier ministre.
Il avait beaucoup d'opposition dans les milieux politiques. Il y en a qui le détestaient, Golda Meir, Lévi Eshkol, Rabin également le détestait de longue date, pour des raisons militaires au début. Et d'autre part, lui aussi ne le voulait pas quelque part. Vous savez, quand on doit arriver à un sommet et qu'on était couvé par un mentor, il faut tuer le père.
Le père.
Le père, c'était Ben Gourion. Il ne l'a jamais tué. Et Shimon Peres, pas davantage. Un des échecs de Peres s'explique aussi par ça. Il n'a pas eu le courage de tuer le père. Alors que Golda Meir a tué le père. Elle s'est détachée de lui, elle a fait opposition à Ben Gourion à une époque, et elle est devenue Premier ministre. Mais ni Pérez, ni Dayan n'auront voulu le faire, n'auront consenti à le faire pour des raisons qui leur appartiennent chacun.
Georges, 40 ans après la mort de M. Dayan, est-ce que on a une image différente de lui par rapport à l'époque où il est décédé, c'est-à-dire 40 ans en avance, en 81?
Vous savez, il s'est passé en Israël quelque chose qui s'est passé dans beaucoup de pays, dont la France, puis Occidentaux, etc. Il y a une coupure dans l'histoire. C'est-à-dire toute cette période-là, ça a été relégué à une sorte de préhistoire, hein, des années 80, en France, c'est pareil. Donc maintenant, on a une distanciation en Israël par rapport à cette période-là, ce qui fait qu'on n'a pas de leçon particulière à tirer. Il fait partie de l'histoire, tout simplement, mais sans plus.
On ne considère pas que Dayan toujours comme un héros en Israël, ça vous voulez dire?
Oui, un héros historique. Un héros historique qui a sauvé Israël en 56, en 67 probablement, et effectivement ses faits de gloire, ses faits militaires ne disparaîtront pas. Mais il est relégué dans l'histoire, il n'est plus actuel, s'il vous plaît, aux yeux israéliens.
La fin de son histoire, parce que malheureusement le temps nous presse, on aurait bien voulu rester avec vous encore plus longtemps et bien détailler le livre, on rappelle, Moshe Dayan aux éditions Perrin. La fin de sa vie est assez triste pour lui. Il quitte le gouvernement et à partir de ce moment-là, il quitte la vie publique et il devient, entre guillemets, un légume, si j'ai envie de m'exprimer un peu trivialement.
Oui, il a une fin qui est triste parce qu'il devient quasiment aveugle, il peut difficilement se mouvoir, il est miné par un cancer qui a été décelé du côlon, et donc il a une fin qui est dramatique, d'autant plus qu'elle se passe dans la solitude. Il s'est remarié, mais sa femme, c'est pas la même chose que la première.
Oui, elle ne pense plus à sa luxure qu'à s'occuper de son mari.
Voilà, c'est un peu difficile. Donc, il redevient solitaire en quelque sorte, et c'est une fin qui est très triste en effet pour lui.
Alors, on a parlé de Moshe Dayan, homme solitaire. En deux mots aussi, il fallait qualifier Moshe Dayan. Sa vie, son œuvre, vous diriez quoi en guise de conclusion? Est-ce qu'on peut en un mot le définir ou il faut plusieurs mots pour lui?
Il se confond aussi bien que Ben Gurion à l'histoire classique d'Israël moderne, hein, c'est-à-dire les premières années flamboyantes d'Israël après 1948, il incarne ces années-là au même titre que Ben Gurion, hein. C'est clair. C'est pour ça qu'il peut y avoir une sorte de relégation dans l'histoire, puisque ça fait quand même 70 ans, hein, et même plus, mais également une forme de nostalgie. Nostalgie de la pureté originelle d'Israël avant, que le pays connaisse toutes les évolutions qu'on connaît depuis, des évolutions normales du reste, mais qui se sont un peu détachées de ces personnes charismatiques, qui se sont un peu détachées de cette magie qui existait à l'époque, la magie d'une fondation nouvelle, tombée du ciel, si on peut dire, inespérée. Maintenant, ça s'est banalisé. Et c'est un phénomène normal, hein, d'ailleurs, il n'y a aucun jugement de valeur à porter là-dessus. C'est une banalisation qui fait que Israël n'a plus ce genre de personnalité maintenant qu'il avait auparavant, de même que nous, en France, on n'a plus un De Gaulle. Là, c'est pareil. Le temps des Ben Gurion, des Golda Meir, des Moshe Dayan est passé. Maintenant, c'est une nouvelle génération qui est beaucoup plus technicienne, qui est beaucoup plus terre-à-terre, qui a d'autres priorités, d'autres motivations qui sont tout à fait incontestables. Mais on a changé d'époque, tout simplement. Alors, et Moshe Dayan appartient à une époque qui révolue.
Il y a quand même une chose sur laquelle je voulais vous entendre parler, la discussion est partie sur d'autres sujets. Il était très proche, très humain avec les voisins arabes. Il espérait, lui, une paix franche et sincère avec ses voisins arabes. Il a échoué, là aussi.
C'est pas qu'il a échoué, il a tenté. Il a tenté de rapprocher les points de vue en ne cédant rien sur ses convictions sionistes, bien évidemment. Mais il a fait preuve d'une humanité qui n'était pas forcément visible chez d'autres leaders sionistes de l'époque, si vous voulez. Parce qu'il a vécu avec des Arabes, en effet. Il a cette familiarisation, il comprenait partiellement l'arabe. Mmh. Et effectivement, ça marque une façon d'être et de faire. Hein. Et même Moshe Dayan a prononcé, au milieu des années 50, un discours qui a beaucoup scandalisé en Israël, à l'époque, à l'occasion du, de l'obsèque d'un combattant de Tsahal, et qui disait, presque sur un mode provocateur, mais il ne cherchait pas à l'être, manifestement, à l'époque, il disait, après tout, on leur a pris leur terre, et en gros, si j'étais à leur place, je ferais pareil. Donc, il essaye tellement de se mettre à la place des autres, bon, qui franchit quelques limites, si vous voulez, et quelques tabous de la société israélienne de l'époque, mais il essaye de se mettre à la place de ces gens qui se retrouvent brusquement, pour des raisons qui incombent souvent, d'ailleurs, aux pays arabes eux-mêmes, hein, notamment en 48, et qui ont été privés de leur terre. Donc, effectivement, il peut avoir, par cette sympathie qu'il a avec, je ne dis pas le monde arabe, mais certaines populations arabes, il peut aller très loin.
Moshe Dayan, héros de guerre ou politicien maudit aux éditions Perrin, avec Georges Hayash, qui est né notre invité aujourd'hui. Je vous conseille de le lire, ce livre, vous apprendrez plein de choses, comme moi j'ai appris énormément de choses. Georges Hayash, je vous remercie. Et merci, on rappelle donc ce livre pour ceux qui aiment Israël et son histoire. Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.